Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. Et aujourd'hui, le fil rouge est tout naturel puisque j'ai décidé de me fier à mon intuition sur le calendrier liturgique avec un événement en particulier qui nous est relaté dans l'Évangile selon Saint Luc. Il s'agit de la présentation au temple de Jésus par ses parents. Et là, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais ils arrivent pour le purifier, c'est-à-dire le circoncis. Et il tombe devant un vieux monsieur, le vieux Siméon, qui va, selon l'évangile, s'exclamer et faire une grande parole envers Dieu, absolument touchante, absolument merveilleuse, qui est restée dans les textes et dans les mémoires grâce à cet évangile-là. Et comme souvent, quand les prières sont fort belles dans l'évangile, eh bien les musiciens s'en emparent, car il est vrai qu'elles sont porteuses d'un très grand sens, et c'est notamment le cas avec cette exclamation du vieux Siméon, qui s'exprime en disant en substance que maintenant qu'il a vu de ses yeux le Sauveur, eh bien il peut mourir dans la paix. C'est une très belle page de la littérature biblique que je vous invite bien entendu à découvrir ou alors à redécouvrir. Peut-être l'avez-vous entendu dimanche à la messe, mais dans tous les cas, rapportez-vous à Luc, à son évangile qui relate cette très belle prière. Et puis, puisque je vous en parle, eh bien je vais vous donner tout de suite le texte, parce qu'aujourd'hui nous allons écouter plusieurs morceaux de musique qui s'y rapportent stricto sensu à cette seule et même prière. Voici donc la traduction du texte latin que vous allez entendre à deux reprises aujourd'hui. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est un texte absolument magnifique. Voyez bien, quelque chose qui aussi entre le côté douloureux et le côté nocturne de la mort, on va y revenir, et un autre côté beaucoup plus éclairé qui est celui de la confiance, et le champ lexical de la lumière est lui employé, lumière pour éclairer les nations, et gloire, là aussi l'aspect glorieux qui vient illuminer cette prière, qui donc aussi entre le côté de la mort et le côté de l'espérance, que je trouve absolument extraordinaire. Le cantique de Siméon, le Nunc Dimittis, puisqu'on va l'appeler comme ça aujourd'hui, c'est une prière qui est très connue, notamment si vous suivez les heures et les complis, notamment puisque c'est une prière que l'on chante ou que l'on récite à chaque fois. Et c'est vrai que l'avoir dans le propre de la messe, eh bien ça n'arrive qu'une fois dans l'année. C'est pour ça que je voulais partager avec vous quelques petits chefs-d'œuvre. Et on va commencer avec un compositeur né en 1539 ou 1540, le doute est permis, et mort en 1623. Il s'agit de William Byrd, un compositeur anglais baroque, un petit peu spécial, parce qu'une fois que je vous ai dit baroque, et c'est vrai que souvent je vous parle de musique baroque, on va d'ailleurs y retourner au fil de cette émission, eh bien il y a une façon de faire baroque. Forcément, quand on pense baroque, on pense à Jean-Sébastien Bach, peut-être Buxtehude, Handel, d'autres très grands compositeurs, mais voyez un petit peu le paysage sonore. Eh bien, William Byrd, lui, il a une façon de faire qui est presque archaïque à cette époque-là. Il a une façon de faire presque de la Renaissance, et vous allez très vite l'entendre. Il s'agit d'un compositeur qui était un compositeur de cour, et donc de cour un petit peu anglicane, mais qui s'est converti sur le tard au catholicisme. Alors, ça lui a valu quelques petits soucis, notamment certaines de ses œuvres qui ont été interdites assez naturellement, puisqu'il y avait eu une forte montée de l'anti-catholicisme en Angleterre, mais certaines de ses œuvres, comme par exemple son Short Service, sont chantées sans interruption dans les cathédrales anglaises depuis la mort de ce compositeur. Il faut dire que c'était un compositeur de génie qui encore aujourd'hui fait référence dans son domaine et en Angleterre avec cette tradition chorale si forte et si belle que vous connaissez. Voici donc sa version du Nunc Dimittis, une version, donc vous allez l'entendre comme je vous l'ai dit, qui est un petit peu tourné vers le passé, un petit peu passéiste, mais qui n'en reste pas moins une très belle page, avec des oscillations entre des voix à 5 heures, des chœurs à 5 voix, et au contraire des chœurs à 3 voix, quelque chose qui justement oscille entre le côté intime de la prière et quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez d'ailleurs vous en apercevoir, quand va être dit et mentionné la lumière, eh bien les voix vont s'emballer, le tempo va s'emballer également, avec ce côté extrêmement confiant, extrêmement lumineux, et finalement extrêmement joyeux de la fin de cette prière, qui aussi avec un côté, un début un petit peu plus austère, vous allez voir, donc une forme d'ambivalence une sorte de prière en deux parties qui a été mise ici, donc en musique par cet extraordinaire compositeur qui est William Byrd. Voici donc sa version du Nunc Dimittis. Ces entrées multiples et variées, un petit peu dans le style fugato, si caractéristique de ce style renaissance, faux style renaissance donc chez William Byrd, compositeur baroque anglais, qui a ici joué la carte des anciens temps. Beaucoup d'ailleurs de sa production revêt cette forme-là, ce qui est assez spectaculaire. Il se rapproche en cela de son maître Thomas Tallis, un autre grand organiste et compositeur de musique qui le précédait donc. Et il y a cette espèce de filiation création dans la musique de Renaissance qui se fait encore entendre dans cette musique-là et qui est si magique, si particulière avec cette sonorité incroyable. C'est vrai que quand on pense à ce style de musique, eh bien on pense beaucoup à la musique italienne, mais n'oublions pas que outre-Manche, il y avait ces grands compositeurs qui composaient de très belles choses. Donc vous l'avez peut-être perçu, ce côté un petit peu antinomique entre une parole nocturne et une parole beaucoup plus lumineuse, avec une session du pas de la mort qui se fait vers la gloire et vers l'espérance, quelque chose de beaucoup plus lumineux et festif qui s'entend par le rythme et qui se termine si apaisé avec l'évocation d'Israël, le peuple saint qui se rassure finalement face à la venue du Sauveur. C'est totalement le sens des paroles de ce cantique de Siméon, de ce Nunc Dimittis, qui a été ici si merveilleusement mis en musique par William Byrd, grand compositeur, bien entendu, que je vous invite à découvrir pour l'énormité de son œuvre, qui est absolument gigantesque et qui mérite là aussi un détour. Alors maintenant, on va faire un virage à 180 degrés et on va complètement changer d'ambiance sonore et on va parler de musique contemporaine. On va rester dans le texte du Nunc Dimittis et on va en Europe, on reste en Europe, avec un compositeur qui est encore en vie. Il s'agit de Lukaszewski, un compositeur qui a écrit ce Nunc Dimittis qui revêt pour moi quelque chose d'absolument spectaculaire et de très très beau, vous allez vite vous en rendre compte, avec différents artifices, notamment une polychoralité. Pardon. Dans cette polychoralité, vous savez que c'est quelque chose qui a été notamment utilisé. Je vous avais déjà parlé de cela il y a quelque temps sur Point d'Orgue. Il y a cette espèce de chœur qui se répond. On avait vu ça notamment chez Gabrielli, ainsi que consorts, hein, tous les membres de la Sérénissime Venise qui avaient cette façon de composer si particulière à Saint-Marc. Et donc là, vous avez cet artifice-là qui est utilisé, deux chœurs donc. Un chœur de soliste et un chœur, on va dire, plus normal, qui lui va dérouler le cantique à proprement parler. Les solistes, quant à eux, ont un rôle presque ingrat, puisqu'ils vont répéter sans cesse le même mot « dominer ». En fait, ce qui est une preuve qu'il s'agit d'une prière. En fait, il s'agit de l'imprécation qui est faite au Seigneur d'écouter cette prière-là. Et donc, les solistes, en fait, vont alterner de mémoire. Je pense que c'est trois notes dans le morceau, qui est un chromatisme. Donc, les notes vont aller en s'élevant petit à petit, comme si finalement la prière s'élevait vers le ciel, et c'est tout à fait le sens à mon avis de ce message qui est fait dans ce Nunc Dimittis. Et dans un autre côté, eh bien, il y a le chœur qui va se dérouler. Et alors là, vous allez voir, l'atmosphère est beaucoup plus sombre, avec là aussi l'emploi de secondes mineures et majeures, avec des dissonances qui viennent frotter l'oreille et qui viennent effectivement montrer la souffrance de ce vieillard qui est en fin de vie et qui attendait la promesse. Donc une forme presque d'anxiété, mais en même temps d'espérance, vous allez l'entendre, car les harmonies viennent tout de suite rassurer l'oreille de l'auditeur. Et de la même manière que William Byrd, quand on va être évoqué la promesse et la lumière, vous allez l'entendre, non seulement le rythme va s'emballer, mais en plus les harmonies vont changer avec quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus extraordinaire, avec cette espèce de pointe vers l'avenir qui nous fait effectivement voir le côté lumineux. Il ne faut pas oublier également que c'est Siméon qui va dire à la Vierge Marie que son cœur allait être transpercé d'un glaive pour signifier sa douleur au moment de la mise à mort. Et ça, je pense que c'est également compris dans la musique, parce que dès qu'on va avoir ce côté lumineux, on va passer dans une tonalité bien mineure, avec des accords parfaits mineurs, beaucoup plus grinçant, beaucoup plus triste, comme si effectivement on annonçait cette douleur à venir là. Et ensuite, vous allez avoir la fin de ce Nunc Dimittis absolument magistral, où ce sont les mêmes accords, les mêmes paroles qui sont sans cesse répétées, trois, voire même quatre fois, chaque fois plus piano, chaque fois plus doucement, comme si effectivement, maintenant que la parole s'était réalisée, maintenant que le vieux Siméon avait pu voir le Sauveur, il pouvait effectivement s'en aller dans la paix tout doucement. C'est comme si c'était la fin du jour et comme si c'était la fin des jours du vieux Siméon qui là constate qu'il peut s'en aller dans la paix. Donc cette espèce de dimension là aussi entre la mort et la lumière avec un laisser-aller et finalement un profond message de paix. Voici donc la version du Nunc Dimittis de Pavel Lukaszewski. Et c'est ainsi avec l'écho du dernier Domine que se termine cette extraordinaire prière du Nunc Dimittis, ici dans la version de Pavel Lukaszewski, une très très belle œuvre. Bien entendu, un grand compositeur là aussi qui compose de très très belles choses, très différent de William Byrd, vous avez bien pu vous en rendre compte, mais de la très très belle musique, pleine de sens. Et maintenant, nous allons encore faire un virage, non seulement nous allons changer de style, mais nous allons changer également d'instrument avec l'orgue, évidemment. Il est compliqué de parler de cette fête si particulière qu'est la présentation au temple sans parler d'orgue. Et bien entendu, je voulais vous parler un tout petit peu de Jean-Sébastien Bach et de son œuvre BWV 617, un choral absolument merveilleux qui reprend là aussi un choral luthérien qui est basé sur le termes, sur tous les termes du Nunc Dimittis. Donc vous n'entendrez pas les paroles, bien entendu, puisque c'est l'orgue qui va jouer le choral, mais il faut savoir que ce thème-là, le thème luthérien qui a été composé donc par Luther, c'est le thème du Nunc Dimittis. J'en profite pour lire un petit extrait, deux petits extraits en fait pour vous dire comment ça se passe. Il s'agit d'un excellent livre, Tout Bach, sous la direction de Bertrand d'Hermoncourt, qui est apparu chez Robert Laffont, et dedans vous avez des entrées un petit peu comme un dictionnaire, qui vous parle donc de Jean-Sébastien Bach, et donc je vais vous en lire quelques petits extraits, afin de vous donner quelques clés de compréhension sur ce que vous allez entendre. Alors, sur le choral à proprement dit, ce fut l'une des principales réformes de Luther pour lutter contre l'ostentation et l'hermétisme des cérémonies religieuses catholiques. L'utilisation de la langue vernaculaire, l'allemand en l'occurrence, et la mise au point de cantiques suffisamment simples pour être mémorisés et chantés par l'assemblée des fidèles à la messe, mais aussi éventuellement chez eux. C'est l'objectif principal du choral, tout cela. C'est-à-dire que lorsque vous allez entendre le thème, vous allez entendre, là en plus il est fait avec des jeux tout à fait particuliers, presque comme une voix humaine un petit peu chevrotante pour rappeler le côté humain du choral qui serait chanté par une voix humaine, et vous allez entendre le thème est finalement très simple, il rentre très vite dans la tête. Et il faut savoir que Jean-Sébastien Bach avait beaucoup développé ça, alors non seulement il utilise le choral à l'orgue, mais également dans ses œuvres vocales, notamment dans ses cantates, tout simplement parce que son prédécesseur à Saint-Thomas de Leipzig, qui était Johann Kuhnau, il utilisait beaucoup ses chorales, cette forme-là, et donc Jean-Sébastien Bach, lui, l'a considérablement amplifié avec le talent qu'on lui connaît. Ici donc, vous retrouvez un choral luthérien qui est mis en musique totalement par Jean-Sébastien Bach, et c'est là où la magie opère finalement, c'est que pour les Allemands qui ont l'oreille pour ce genre de choses, puisque ça fait des siècles que c'est chez eux, eh bien ils peuvent chantonner l'air, puisque c'est un air qui du coup rentre dans les mœurs et qui est fait pour être siffloté, chantonné, rester dans les têtes. Voici donc la version de Jean-Sébastien Bach du Nunc Dimittis et son BWV 617. Thank you. Magnifique œuvre du cantor de Leipzig, ici sur un magnifique instrument d'esthétique germanique. Vous l'entendez, cette sonorité si spécifique, si dans le jus de Jean-Sébastien Bach, c'est de la musique absolument magique, on s'en régale. Et songez effectivement ce côté polymorphe de la matière musicale qui tantôt devait être chantée par les fidèles, tantôt était repris ici presque comme un gimmick par l'organiste qui pouvait donc se faire plaisir avec ce thème-là, c'est presque comme s'il s'agissait finalement d'un langage improvisé autour d'un thème donné. Extraordinaire musique donc du maître de Leipzig, Jean-Sébastien Bach, qui signe ici une de ses plus belles œuvres pour orgue, tout en simplicité, mais avec une telle finesse qui rend bien compte et rend bien justice à cette belle prière qu'est le Nunc Dimittis, que vous retrouvez dans l'évangile, donc selon Saint Luc. Mesdames et messieurs, voilà pour aujourd'hui sur ce tour musical autour du Nunc Dimittis. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour écouter, analyser, parler d'autres œuvres musicales, liturgiques, sacrées avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle fin de journée.